de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. J'ai l'impression d'avoir fait un film, comprendre seulement un film. Madame de. Non, elle en avait tourné beaucoup d'autres, ne serait-ce que les deux chefs-d'œuvre dans lesquels Max Ophüls l'avait mise en scène, La Ronde et Le Plaisir. Danielle Darieux était l'héroïne du Ciné-Club, proposé sur France Culture le 23 décembre 1998.
Chère madame, la passion de vous m'a pris tout à coup quand je vis par hasard à Nice, dans un cinéma de quartier, Le Plaisir de Max Ophüls. Vous y étiez, fille d'en haut, Rosa Larosse, qui ne cessait de boire que pour chanter. Et vous voir sangloter dans une église normande, devant une communion solennelle, ou lancer un regard nostalgique à un impossible amour dans le bocage ensoleillé, tout cela m'avait complètement bouleversé. Plus tard, je vous retrouvais avec bonheur, incarnant des héroïnes romantiques de la littérature, Zola, Stendhal, Victor Hugo ou même D.H. Lawrence, tour à tour fière, émouvante ou désenchantée, et de tous ces films des années 50, que vous soyez une adorable créature, Bonne à tuer ou Lady Chatterley, Coquette Amélie ou Un bon Dieu sans confession, le cinéma français s'incarne en vous par l'intelligence de votre jeu et la finesse de votre sensibilité. Un jour, la télévision nous montra vos premiers films. Vous y étiez une jeune fille frivole et capricieuse, mais volontaire et déterminée. Je m'enthousiasmais pour la charade de battement de cœur, pour l'adolescente moderne de premier rendez-vous qui fait si bien swinguer le troisième couplet de sa romance, et pour cette voix qui n'a pas changé dans les films de Jacques Demy. Que dire enfin de Madame II, superficielle et fragile, qui se mourra d'amour, de bijoux et de mensonges, de ces regards si tendres dont vous entourez votre amant au cours d'un bal sans fin. Devant vous, la caméra d'Ophüls se grise et virevolte de votre séduction incomparable. Je dois conclure enfin, madame, en vous remerciant de choisir toujours avec la même exigence vos personnages du cinéma présent, proposés par ceux qui vous aiment et vous admirent. Revenez vite encore et toujours enchanter nos rêves à tous les rendez-vous.
Danielle Darieux, vous avez conscience d'incarner un personnage tout à fait extraordinaire du cinéma français ?
Non, pas du tout, moi. On me dit chaque fois que j'avais... Non, non.
Non, mais les gens me connaissent depuis longtemps. Je crois que c'est ça. C'est vrai que je sens beaucoup d'affection et de tendresse chez les gens, aussi bien ceux que je rencontre, ceux qui m'écrivent et tout. C'est vrai que c'est bouleversant par moments, c'est vrai. C'est très, très touchant. Et puis, sans compter alors les générations d'après qui me disent « Oh, mon Dieu, oh, ma mère, oh là là, si maman savait que vous avez vu, même des moments, ma grand-mère que vous adorez. » J'ai toutes les générations maintenant.
Ciné-Club, Danielle Darieux, par Pascal Lismonde et Josette Collin. Les générations de cinéphiles, d'arieuphiles ou de cinéastes, d'Anatole Litvak ou Gallone, jusqu'à Vecchiali ou Téchiné, en passant par Kayat, Mankiewicz, Allégré ou Duvivier, sans oublier Henri Decoing, autant Lara ou Ophüls, qui lui ont donné ses plus grands rôles. Danielle Darieux a elle seule l'histoire du cinéma, mais aussi celle de la femme, car elle les incarne toutes. Tour à tour, Sainte Nitouche ou Zazie, comtesse viennoise, Madame Bovary à la hongroise, ou voleuse à la tire, elle a su jouer les espionnes, les empoisonneuses, les grisettes, les filles de joie ou les aristocrates. Toutes les femmes en une seule actrice, peut-être parce qu'elle est avant tout une grande amoureuse. Danielle Darieux, toujours souriante, espiègle même, lumineuse et tellement belle. Comment commence une aussi longue carrière ?
Tout à fait par hasard, je travaillais le violoncelle Et bon, je vivais avec mon frère, ma sœur et ma maman, puisque maman était veuve. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 7 ans. Donc, j'étudiais le violoncelle. Et à 13 ans, maman donnait des leçons de chant. Et elle donnait des leçons de chant, entre autres, à une dame ravissante qui venait quelquefois à la maison, qui était une dame qui faisait du cinéma, et qui s'appelait Marie Certa, j'en souviens très bien de son nom. Et elle était avec un monsieur qui était un peu, je pense, dans les productions, tout ça. Et qui un jour lui a confié dans le creux de l'oreille de maman qu'il y a un producteur qui désespérément cherchait une petite fille qui devait avoir l'âge du rôle dans le bal d'Irène Némirovski. Et bon, il dit à maman, mais il me regardait, pourquoi vous n'envoyez pas Daniel ? Maman était à 100 000 lieues de penser à des choses pareilles, moi aussi. Et bon, alors moi j'entends ça, j'étais là. Je dis à maman, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors explique-moi. Alors j'ai demandé au monsieur. Bon, alors le lendemain, j'ai dit à maman, écoute, je vais y aller parce que quand même, c'est peut-être amusant. Alors j'ai mis mon petit tailleur, j'avais un petit costume de pièce pour le jour et puis un petit pour le soir, point, c'est tout. Et puis je suis partie chez le producteur qui m'a regardé comme ça, il partait, il m'a dit, je pars, je prends ma voiture et je vais au studio Tobis. Ben, je t'emmène pour faire des essais. Et je ne savais absolument pas ce que je faisais. J'étais fonceuse, c'est le taureau, ça. Donc il m'a fait faire un essai, je parlais... Un jeune homme qu'on avait mis gentiment pour qui représentait ma maman, ce qui n'était pas tellement inspirant. Et puis bon, ben, je suis rentré à la maison en disant, maman, c'est marrant, c'est rigolo. Il y avait un jeune homme que j'appelais maman. On m'a donné un petit texte à apprendre, on m'a mis un petit peu de poudre sur la figure. Et puis j'ai repris mon violoncelle. Voilà, c'est tout. Et puis 8 jours après, ils ont téléphoné à maman en disant, vous aimez bien qu'elle revienne pour faire un essai plus dramatique. Mon Dieu, là, la peur me prend. Celle de maman aussi, et je pars, j'en repars quand même. Et j'ai refait la scène avec le même jeune homme, alors là, en pleurant, en appelant maman. Et puis, après on a retéléphoné maman, on dit, écoutez, il en restait 4, c'est elle qui est prise. Ah mon Dieu, voilà. Et tout est parti comme ça. Hein.
Je me souviens avoir lu, enfin par la suite... une critique de ce film Le Bal, écrite à l'époque, où on disait ce film est joué par des acteurs qui venaient du théâtre et qui étaient célèbres. C'est-à-dire, il y avait André Lefort, Germaine Dermoz et Marguerite Pierry, qui étaient des acteurs véritablement de très grand talent. Mais la critique disait, ils sont tous les trois surpassés par cet enfant, on peut dire, qui a le charme et la spontanéité qu'ils n'ont pas, eux, qui jouent extrêmement bien leur rôle, mais qui n'ont pas cette espèce de désinvolture souriante qu'avait déjà Daniel Darrieux.
C'est un refrain du temps passé qui chante en ma mémoire d'une fillette.
Quand j'étais jeune, j'aurais beaucoup de films avec Albert Préjean. Énormément. Ça, c'était le côté bim, 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 petite comédie charmante et tout. Et puis, j'ai tourné un film ou deux avec, comment il s'appelait, Henri Gara. Ça, c'est pas de votre temps, mesdames. Vous vous rendez compte?
Ça, c'est les années 30, alors, c'est ça?
Et oui, moi, j'ai commencé en 31. Donc, c'est vraiment les années 30.
Rencontre cinématographique entre Daniel Darrieux et Raymond Chira, devenu historien du cinéma français. Nous sommes en 1937.
C'était dans un de ses petits films musicaux, comme on en faisait beaucoup à l'époque, et qui lui avait d'ailleurs ouvert la porte déjà à la célébrité. C'était dans un film où elle jouait avec Henri Gara, qui s'appelait « Un mauvais garçon ». Film qui est resté célèbre d'ailleurs par deux chansons, une chantée par Gara, qui donnait le titre au film, et l'autre où Daniel Darrieux, qui faisait une jeune avocate, parcourait les rues de Paris dans sa petite voiture en chantant « Je ne donnerai pas ma place pour un boulet de canon ». Et alors là, c'était véritablement cette Darieux qu'on a connue, si vous voulez, à peu près de 31 à 37, justement, qui était une personne extrêmement agréable, délurée, toujours souriante, toujours spontanée, et qui en même temps a eu l'approbation, si l'on peut dire, des collégiens et des personnes beaucoup plus âgées. Elle était absolument charmante.
Et alors, donc, après ses premiers rôles, donc, où elle est un peu une sorte de Zazie, on pourrait presque dire.
Oui, un peu ça. Un
personnage
exact.
Déluré, espiègle.
Personne un peu débridé. Quel drôle de gosse, comme disait un de ses films. C'était ça.
Elle prend tout à fait un nouveau tour, justement, avec les films qu'elle va faire avec Henri Decoing, avec son mari.
Oui, c'est-à-dire qu'Henri Decoing l'avait connue, et puis ils avaient été tournés. Vous savez, c'était la mode des doubles versions qu'on tournait à Berlin. Il y avait la version française, il y avait la version allemande. Et Henri Decoing avait pu apprécier ses qualités dramatiques dans un film qu'il avait tourné avec elle pour la version française et qui s'appelait « Le domino vert ». Et il s'est dit, tiens, on lui fait toujours jouer des rôles de petite capricieuse, de jeune fille débridée, heureuse de vivre, mais elle a certainement une autre face de son talent. Et ça lui était confirmé par un film que Daniel Darieux tourna en 1936 avec Anatole Litvak, qui était l'histoire de Marie Vetchera et de l'archiduc Rodolphe. C'était Meyerling. Ça avait été une révélation. On avait vu qu'elle pouvait jouer des rôles dramatiques.
Voici enfin ma petite Marie.
Mon Dieu, est-ce que je suis en retard?
Non. Mais jusqu'au dernier moment, j'ai pensé que vous ne viendriez pas. Que vous auriez peur.
Peur de quoi?
Je sais pas. Ce palais, cette pièce lugubre, de moi.
De vous? Oh, au contraire. Auprès de vous, je n'ai peur de rien.
Vous voulez pas enlever votre chapeau?
Quel malheur, j'ai des mèches, je ne vous plairai pas.
Vous me plaisez trop.
Je suis si heureuse.
Moi, je considère que c'est quasiment un traumatisme pour moi.
Paul Vicky,
la première fois que j'ai vu une photo de Daniel Darieux, c'était à Aix-les-Bains. J'avais 6 ans, donc, et c'était dans Meyerling. J'ai vu cette photo et puis je suis resté là 2 heures sans bouger. Et maman m'a sorti là, mais qu'est-ce que tu as? Ce qui fait que quand on est rentré, on faisait une cure avec Sylvain, quand on est rentré à Toulon, et que Meyerling était annoncé, je me suis précipité voir le film. Je l'ai vu toute la journée, je ne suis pas sorti de la salle. C'est l'histoire des amours de Rodolphe et de Marie Vetsera, et c'est une histoire tragique, c'est du genre d'amour magnifique. Quand on a 6 ans, comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir le monde à ses pieds. Et je crois que c'est ses yeux, surtout, c'est son regard quand elle est à l'opéra et qu'elle regarde, qu'elle reconnaît l'archiduc Rodolphe. Il y a tout le rêve du monde, toute l'innocence du monde, tout l'espoir du monde dans ce regard. Et quand on est enfant, ça porte.
Qu'est-ce que c'est? Une bague de mariage? Comme elle est belle. Tiens, une date.
13 novembre.
La nuit chez sa guerre. Il y a des lettres. RDLAJLM.
Réunis dans l'amour jusqu'à la mort.
Comme c'est beau. Merci. Mais il faut que tu la mettes toi-même à mon doigt.
Pourquoi?
Parce qu'on peut faire un vœu. Merci.
Qu'est-ce que tu as souhaité?
Mourir avant toi.
J'avais 18 ans quand j'ai tourné Meyerling. Alors là, j'étais vraiment... C'était Meyerling qui m'a quand même consacré. Si vous voulez. Bon, avant, ça marchait très bien. On était très peu, alors il n'y avait pas de raison. C'est pas comme maintenant. Il y a tellement de jeunes merveilleuses comédiennes. Et là, on n'était pas nombreuses. Hein. Donc voilà, j'ai tourné Meyerling, ébloui, parce qu'on m'a dit Charles Boyer, mon Dieu, je fondais l'admiration. Et ça se voit d'ailleurs sur le film.
Comment ai-je pu vivre sans te connaître? Je ne savais rien, je ne sentais rien. Je n'existais pas. Maintenant, Rodolphe, je te remercie.
Et toi, je t'en supplie.
Qu'y a-t-il ?
C'est toute Marie. Et si j'étais forcé tout à coup de partir ?
On s'attendrait.
Non. Loin. Très loin. Pour très longtemps.
Mais je te suivrai.
Et si c'était impossible ?
Impossible ? Pourquoi ? Je te suivrai partout.
Même là d'où l'on ne revient pas.
Avec toi, oui.
Rendez-vous compte, en 37, elle avait 20 ans.
20 ans, bien sûr.
C'était la plus grande vedette française à l'époque. Il y en avait d'autres, mais c'était la plus jeune et la plus populaire d'une certaine manière, même s'il y avait Viviane Romance. Mais Viviane Romance, c'était un emploi tout à fait différent. C'est quand même prodigieux. À 20 ans, elle avait tourné déjà au moins une trentaine de films, enfin, pas loin en tout cas.
Et le
cinéma français, il y avait cette figure-là. Il ne faut pas oublier non plus que le cinéma des années 30, bon, même encore 40, c'était un cinéma d'emploi, c'est-à-dire que les acteurs ou les actrices, c'est pour ça qu'il y a tellement de second rôle formidable dans tous ces vieux films, et les actrices étaient un peu typées, si vous voulez, donc on disait, tiens, ça c'est un rôle pour un tel, ça c'est un rôle pour une telle. Mais Darieux, c'était un type, parce que avant elle, tout de même, il y avait eu Annabella, qu'on oublie. Annabella, bon, Annabella était aussi une jeune fille très typée, mais elle a commencé sa carrière avant Darieux. En réalité, Darieux a repris, d'une certaine façon, un personnage qui existait déjà en partie avec Annabella, et puis ça a changé au gré des circonstances, des influences des metteurs en scène, et surtout du rôle de Decoing dans sa vie à ce moment-là.
Decoing a eu l'idée ensuite de lui faire interpréter une sorte de mélo assez populaire, assez bien fait, et qui devait toucher beaucoup les foules. Ce mélo, ça s'est appelé « Abus de confiance », qui était l'histoire d'une malheureuse gamine qui, jetée un peu à la rue, use d'un subterfuge pas très honnête pour se faire recueillir par un avocat célèbre. Alors ça, c'était le thème. Et c'était un film qui était tout à fait lacrymal, il faut bien le reconnaître. Et Daniel Darieux s'en sortait absolument, merveilleusement bien. À la suite de quoi, d'ailleurs, Decoing et elle ont été engagés pour les États-Unis. Et là-bas, elle a pu tourner un film qui était une comédie, qui s'appelait « Coqueluche de Paris ». Et quand elle est revenue, elle a...
On appelle aussi la rage de Paris.
La rage de Paris, voilà, exactement. Et dès son retour, elle a quand même joué des rôles beaucoup plus sérieux que ceux qu'elle jouait auparavant. On l'a vu, quand elle est revenue en France, elle a tourné un film qui s'appelait « Retour à l'aube », où alors elle montrait justement une grande diversité dans son jeu.
Courage. Demande-moi ta gueule.
Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas que vous téléphoniez à ta gueule. Je vous en supplie, monsieur le commissaire, ne téléphonez pas. Je vous ai dit la vérité. Mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je ferai tout. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je vous dirai tout ce que vous voudrez. Je vous en supplie, ne téléphonez pas.
C'est une jeune mariée, un peu déçue par son mariage, une petite villageoise qui,
Jean-Pierre Ferrier,
à la faveur d'un héritage, va dans une grande ville et est absolument grisée. Elle vit, pendant une nuit, elle vit une sorte de rêve éveillé. Elle claque l'argent d'héritage, s'achète une très belle robe, etc. Et puis le rêve tourne au cauchemar, quoi. Elle finit avec des menottes au poignet. Enfin, mais c'est un très beau film. Je pense très méconnu.
Parce que l'épouse du chef de guerre, puisque c'est,
oui,
c'est ça, donc
oui, elle était fascinée
rôle.
Par les trains aussi, oui, c'est ça. Elle est fascinée par les trains qui allaient à la grande ville et elle restait dans sa petite gare de province, quoi, de village même.
Oui, je disais, c'est-à-dire que l'épouse du chef de guerre se retrouve jouer un rôle de comtesse, même l'espace d'une nuit.
Oui, enfin, une comtesse, on ne sait pas trop, mais enfin, étant donné qu'elle a acheté une robe du soir, enfin, elle se transforme complètement et elle va rencontrer un aventurier et le prendre pour le prince charmant.
Et le prince charmant est un escroc qui va être arrêté par la police. Elle va être arrêtée comme complice, jetée en prison aussi, menottée au poignet. Donc ça tourne vraiment au cauchemar. Bon, ça finira... Évidemment, elle va s'en sortir, mais elle sera marquée à jamais par cette nuit. Parce que tout se passe en une nuit. C'est ça qui est formidable dans ce film.
Minuit. Je devrais être...
Vous couchez à minuit, mais ça ne se fait plus. Elle a ce qu'on appelle les livresses bourgeoises.
Il y a plusieurs films, en fait, où vous chantez. Vous parliez de votre mère, professeure
oui,
de chant,
oui,
Danièle
Darrieux. Oui, ah bah oui, oh là là, bon, au début de ma carrière, on me faisait chanter une chanson, au moins, par film, qui n'avait aucun sens. C'est-à-dire que pourquoi je chantais dans le film, ça venait comme des cheveux sur la soupe. Mais, c'est, alors, on va jouer la chanson, Danièle, on va voir la chanson. Ah bon, très bien, la chanson, c'était la chanson que j'allais chanter. Mais si j'avais joué un rôle de petite jeune fille qui veut chanter, bon, mais non, pas du tout, ça n'avait aucun rapport avec le film. Il fallait toujours qu'il y ait une chanson du film. C'est drôle.
Dans Retour à l'aube aussi, il y a une superbe chanson.
Enfin, là encore, elle est dans une boîte de nuit un peu romantique avec des violons autour. Bon, on peut arriver à se laisser aller un peu. Mais...
Oui, non, là la chanson est tout à fait induite par le scénario. Ce n'est pas un prétexte.
Non.
Moi, j'ai un souvenir personnel d'une chanson qui m'a poursuivi très très longtemps. C'est dans un film de 39, d'un film de Decoing, qui avait été son mari. Et ce film, c'est Battement de cœur. Dans Battement de cœur, à un moment donné du film, elle chante une chanson absolument ravissante qui avait été écrite Paul Misraki et qui s'appelle « Une charade ». Elle chante ça avec un bonheur de vivre tel que ce film, qui a refait carrière tout de suite au début de l'occupation, a donné, je pense, aux gens certains motifs de se rappeler le bonheur perdu et d'entrevoir ce que pouvait être l'espérance en ce temps-là. C'est absolument prodigieux, et chaque fois que je revois ce film, je ressens la même émotion à entendre Danièle Darrieux chanter cet air.
C'est un regard tendre, mon deuxième, un sourire moqueur, mon troisième, les mots que j'aime entendre, et mon tout se trouve dans mon cœur, il y tient même toute la place. Bat à grand coup. Cette fois, je le vois, vous avez deviné que mon tout c'est pour vous.
Bravo, bravo, bravo.
Oh, quelle surprise! Mais vous attendez que samedi, cher ami.
Oh, mais excusez-moi, j'ai... Mais si je vous dérange,
Je peux repartir tout de suite?
Oh, mais vous plaisantez. Asseyez-vous, je vous en prie.
Vous êtes bien aimable.
Oh, ce bon Pierre. Bonjour, pourquoi es-tu revenu si tôt?
Toi aussi, je te gêne, en somme.
Oh, mais pas du tout, voyons.
Un verre de Porto?
Non, merci. Hein, crois-tu?
Quel maintien, quelle aisance. Une vraie petite femme du monde.
Tu lui as donné des leçons.
Oui, oui, oui.
Ah, c'est ça.
Continuez.
Avez-vous fait un bon voyage? Que se passe-t-il à Genève, monsieur le diplomate?
Oh, monsieur le diplomate, bravo. Mais vous savez, il est inutile de tant montrer vos jambes, qui sont ravissantes, d'ailleurs, comme votre voix.
C'est vraiment trop aimable à vous. Je suis confuse et flattée.
Mais dites-moi, pour vos valets de chambre que j'ai vu en bas.
Ah, c'était un camarade d'école.
Un camarade d'école qui n'a pas de papier non plus, probablement.
Non, mais je le garantis. Il veut se faire une vie nouvelle.
Ah, une vie nouvelle, lui aussi. Décidément, ma maison est devenue un asile pour repentis.
Merci bien, merci.
Vous partez?
Je vais m'habiller, cher ami.
C'est une comédie endiablée. C'est une jeune orpheline qui a quitté son... c'est une mineure échappée d'une maison de redressement qui échoue dans une école de pickpocket dirigée par Saturnin Fabre, qui est extraordinaire, et qui va lui apprendre à voler. Et bon, finalement, elle va rencontrer un ambassadeur à qui elle va piquer une peigne de cravate. Ça va l'entraîner dans toute une suite d'aventures où elle va rencontrer l'amour, et bon, évidemment. Mais c'est très, très, très drôle. Il y a Carrette, il y a Saturnin Fabre et Jean Tissier, qui est un trio de choc.
Vous savez à quoi elle pense?
J'y pense moi aussi.
À notre première danse?
Oui, vous avez raison. On se souvient toujours de son premier bal et de son premier danseur.
Oui, je parlais sans arrêt comme maintenant. Je vous disais que les bals m'ennuyaient. Vous aviez votre main posée sur mon épaule, comme maintenant. Et puis tout d'un coup, je n'ai plus entendu le tic-tac de ma montre.
Merci.
Mais qu'est-ce que vous avez?
L'allusion est charmante.
Mais qu'est-ce que vous avez imaginé?
Oui, j'ai bien compris. Pour vous, je ne serai jamais qu'une voleuse. Merci de me l'avoir rappelé.
Mais je n'ai jamais pensé à ça, Arlette, voyons.
Que leur mise en place a été très diplomatique.
Arlette, je vous en prie, dansons encore.
Non!
En 39, vous avez Battement de cœur, qui est la comédie. Alors là, pour le coup, faite en France, mais à l'américaine. Bon. Et qui est en l'espèce de sommet du personnage de Darieux, jeune fille excentrique et tout ce qu'on veut, personnage qui s'est poursuivi sous l'occupation avec Decoing, mais c'est le dernier film qu'ils ont fait à ce moment-là ensemble, c'est-à-dire Premier Rendez-vous, qui pour tous les jeunes de l'époque de l'occupation a été un film culte. Bon, c'est moins réussi que Battement de cœur, c'est fait sur le même principe. Mais en plus de ça, il y a une chose aussi qui poussait à aller voir les films de Darieux, c'est qu'elle chantait.
C'est un phono? Ah non, c'est à la radio, ça.
Mais pensez-vous, mais c'est une voix de femme, ça.
Oh, cher Ernest, vous faites fouille à parler femmes de ménage? Elles en ont une gueule à chanter comme ça.
Oh, confort moderne, au chaud, au froid, des femmes à tous les étages.
Ce serait trop beau, ça. Oh, la ferme, écoutez ça. C'est le premier rendez-vous.
Oui, merci pour le terrain, c'était très gentil.
Oh non, mais c'est adorable.
Ah, mais écoute-moi.
Quand monsieur le temps, beau jour de printemps, fait d'une simple enfant presque une femme, dans le songe bleu d'un avenir joyeux, fermons les yeux.
Toutes les femmes étaient peignées, coiffées, chapeautées, enfin, comme Daniel dans ce film, quoi, qui a.
Il a vraiment un bibi, comme on dit.
Il a vraiment un bibi, bah, c'était le genre, les petits chapeaux un peu sur le devant de la tête, quoi, et les grands cheveux sur les épaules, mais toutes les femmes étaient comme ça, comme je me souviens très bien de ma mère ou des personnages autour, étaient copiés Daniel Darieux, enfin, tout le monde s'habillait et se coiffait comme elle.
Et quel est le thème de ce film? Quel est le personnage qu'elle incarne?
Le premier rendez-vous, bon, c'était un film qu'elle n'aime pas tellement, je crois, je le dis tout de suite. Hein. C'est une jeune orpheline qui correspond avec un mystérieux jeune homme qui a mis une petite annonce dans un journal. Alors elle rêve autour de ce personnage qu'elle va rencontrer. Elle ne le rencontre d'ailleurs pas, elle rencontre un vieil homme qui est venu à sa place. Et elle va être terrorisée, mais ça va finir bien. Quoi. Finalement, elle va rencontrer le très beau garçon qui n'était pas l'auteur des lettres, mais qui va quand même l'épouser à la fin du film.
On parlait des Américains tout à l'heure. Vous avez tourné plusieurs films aux États-Unis, mais pourquoi n'y êtes-vous jamais parti définitivement, en quelque sorte ? Parce que vous avez fait La Rage de Paris, par exemple.
Oui. Mon premier film, c'était La Rage de Paris, et c'était avant la guerre. Et puis je suis revenue, et puis il y a eu la guerre, parce que je voulais pas signer de contrat à l'époque. Enfin, c'est pas moi qui m'occupais de ça. Mais j'étais tellement môme. C'était Decoin avec qui j'étais mariée. Qui m'avait fait un contrat où je devais faire un film par an, là-bas. Alors finalement, comme je suis arrivée en 37, là-bas, qu'on m'a fait attendre des mois pour que le scénario plaise et que j'ai tourné en 38, je suis rentrée et en 39, ma foi, voilà. Et la guerre est arrivée.
Dans un autre registre, Raymond Chira, vous qui avez écrit un livre sur le cinéma français sous l'occupation, qu'en est-il de la carrière de Daniel Darieux pendant la guerre ?
Alors, vous savez, alors là, on arrive à des choses un peu... vous savez, elle a tourné trois films pendant l'occupation. Trois films pour cette compagnie allemande qui était à Paris et qui s'appelait La Continentale. On a beaucoup glosé là-dessus. Moi, il faut séparer, si vous voulez, l'actrice qui était extrêmement sollicitée pour Premier Rendez-vous. Decoin lui avait, paraît-il, télégraphié en lui disant « Il faut absolument que tu joues ce film ». Lui, il était sous contrat déjà à La Continentale. Je pense que Daniel Darieux ne se rendait peut-être pas exactement compte. Surtout elle, qui avait beaucoup fréquenté les studios berlinois à une certaine époque, et puis je pense qu'elle s'est dit « Bon, je joue avec d'autres actrices ou d'autres acteurs français ». Et après tout, dans la distribution, il y avait quand même Fernand Ledoux, il y avait... Jean Tissier, il y avait Jacqueline Desmarais qui est devenue Sophie Desmarais, il y avait Suzanne Dehely, c'était tous des noms très très célèbres à l'époque. Alors elle a joué ça, elle a joué ensuite Caprice. Elle a joué ensuite Caprice, qui était un film de Léo Joannon, où elle retrouvait Albert Préjean. Or Albert Préjean, au début de sa carrière, a été avec elle au moins dans 5 ou 6 films. Alors bon, c'était une espèce de camaraderie qui était entre eux. Et puis elle a tourné un dernier film, toujours pour La Continentale, qui s'appelait La Fausse Maîtresse. Fausse Maîtresse, pas un très très bon film, c'était le premier film d'André Cayat, où elle était dans un cirque et elle chantait, alors elle chantait, en nous en revenant toujours aux chansons, elle chantait 2 chansons absolument ravissantes dans ce film, qui ont emporté quand même le succès du film. Et puis après, elle s'est arrêtée. Allons jusqu'au bout, disons qu'il y a eu ce malencontreux voyage à Berlin, et qu'elle a fait en compagnie d'autres actrices, dont elle s'est défendue après en disant que ça lui avait été plus ou moins imposé. Ce que je veux bien croire, vous savez, les rapports avec les autorités occupantes ne devaient pas être faciles du tout. Edwige Feuillet raconte très bien dans un de ses livres de souvenirs que quand on lui a demandé de tourner Mamselle Bonaparte, et qu'elle s'en défendait, on lui a dit « Mais madame, vous avez un contrat, hein, vous avez un contrat signé de vous pour signer ça ». Or, c'était de ces contrats qu'elle avait signé avant l'occupation, mais que les nazis avaient récupéré et qu'ils opposaient là à la vedette choisie. Alors, je pense que dans le cas de Daniel Darieux, qui, disons-le aussi, était quand même assez jeune à l'époque, elle a fait ça un petit peu par étourderie. Et puis après, elle avait divorcé de Decoy, elle s'est mariée avec Porfirio Rubirosa, qui, lui, n'était pas du tout en odeur de sainteté du côté des Allemands. Alors, ce qui fait qu'elle a rompu carrément, à ce moment, et avec la Continentale, et avec le cinéma, et qu'elle n'a reparu plus qu'en 1945, après s'être arrêtée en 1942. Donc, elle a eu 3 ans où on ne l'a plus vue sur les écrans. Quand elle est reparue, les gens l'ont boudée, on ne savait plus bien qui c'était. Oui, Daniel Darieux. Oui. Puis alors, elle n'a pas tourné tout de suite de très, très bons films. Un de ceux qui l'a vraiment un peu remis en selle à ce moment-là, ça a été Cocteau, qui avait écrit une adaptation de Ruby Blas de Victor Hugo. C'est pas lui qui a tourné le film, c'est Pierre Billon. Et elle faisait la reine d'Espagne avec toujours ce charme indéniable, car en plus de tout ce que nous avons dit, elle sait toujours très bien porter le costume. Ça. Bon, alors, peu à peu, elle a tourné une adaptation aussi de Jean de la Lune. Bon, et puis alors, Occupe-toi d'Amélie l'a remise carrément sur les écrans. Et après, elle a eu toute cette carrière magnifique qui s'est développée.
Tiens, c'est notre anniversaire, Elisabeth. J'ai rien pu t'acheter. Tu savais comme je t'aime.
Si tu ne peux pas t'en empêcher.
Il n'y a que la mort qui puisse.
Je sais, je suis passée par là. Moi, c'est fini. Je ne t'aime plus.
Mais si je meurs, Elisabeth, on jugera. Ils ont des lois et puis ils te condamneront, ils t'achèveront.
Je sais.
Et tu ne te défendras pas.
Défendre quoi?
Ah, mais toi et puis notre enfant.
Rappelle-toi comme nous l'avons fait.
Il existe.
Il existera sans nous. Nous avons été pour si peu de choses dans sa vie. Pour si peu d'amour. Tu voudrais tout refaire, François, je sais. C'est impossible. Faut les hommes. Vous aimez bien décider que la vie est ici ou bien qu'elle est là. Et quand vous vous apercevez que vous vous êtes trompé de chemin et que vous nous avez trompés, vous nous demandez simplement de repartir à zéro. Comme si c'était faisable. Les bouchées doubles. On ne recommence pas sa vie 2 fois, François. Il y a des mots. Des grands mots, comme tu disais. Tu m'as fait rentrer dans la gorge il y a 10 ans. L'amour est miracle. Éblouissement. Grâce. Naissance. On ne recommence pas 2 fois l'amour, François.
Mais si, je trouverai bien, tu verras.
Qu'est-ce que tu veux encore trouver?
Oh, tes yeux sont si secs. Si seulement tu pouvais pleurer.
Decoy a toujours très très bien su l'utiliser, et notamment dans La vérité sur Bébé d'Ange, qui est un des grands rôles de Daniel Darieux, rôle extrêmement dur, extrêmement contraint de cette femme déçue par son mariage, avec Jean Gabin d'ailleurs dans le film. Les deux êtres n'arrivent pas à se comprendre, à se connaître, et Daniel Darieux dans le film empoisonne son mari et elle le voit mourir sous ses yeux, elle absolument figée dans sa réprobation, dans sa tristesse, dans son chagrin, et le film se termine par le départ en prison de Daniel Darieux sous les yeux de sa très bourgeoise famille. C'est un très très beau film qui a eu un accueil mitigé à sa sortie, mais que maintenant on apprécie tout à fait grandement et à juste titre.
Mais le fait que son mari délaissé lui fasse tourner le rôle d'une empoisonneuse, c'est, selon vous, vous pensez que c'est une sorte de vengeance du metteur en scène?
Ben, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense que le rôle avait tout pour tenter Daniel Darieux et faire éclater une fois de plus son immense talent de comédienne et je dirais presque de tragédienne, si l'on peut dire.
Il y a plusieurs reprises, finalement, elle va jouer ce rôle de femme, ce rôle un peu ambigu de femme machiavélique ou qui, justement, a un rôle qui ne la fait pas rentrer dans l'ordre bourgeois, disons.
Non, même De Coin lui a fait quand même jouer aussi Madame de Montespan dans un film qui s'appelle L'Affaire des Poisons. On ne peut pas dire qu'elle avait un rôle sympathique du tout, bien loin de là. Mais elle s'en tirait toujours. Elle a une, je sais pas, une grâce corporelle aussi, Daniel Darieux. Une science de la gestuelle, des mouvements. Même quand elle n'a pas grand-chose à dire, elle est éloquente, peut-on dire.
Cette métamorphose et ce sens de la métamorphose, c'est un élément que Kofuls, qui sera quand même son grand metteur en scène, va largement développer.
Oui, alors on sait que Kofuls trouvait que vraiment Daniel Darieux, c'était la grande actrice par excellence. Et il lui a fait donc tourner trois films, La Ronde, Le Plaisir, qui est certainement un des plus beaux films qui a été réalisé en France, et Madame de, aussi on pourrait renchérir sur ces trois films, et dire tout le bien qu'on en pense.
Au tout début des années 50.
Oui, c'était dans les années 50. Et dans La Ronde, Daniel Darieux manie l'ironie absolument. Dans Le Plaisir, elle déploie toute sa grâce. Et dans Madame de, elle atteint à une espèce d'apothéose. Et Daniel Darieux, là, est au fait de son art.
Mais regardez-moi ça. Elle sera même pas capable de conduire une charrette.
C'est pas bon. Je crois qu'on
serait allé manger de la voix.
Je ne sais comment m'excuser. Mon cocher est un maladroit.
Mais
je lui donnerai un pourboire. Pour le récompenser de sa maladresse.
Je ne comprends pas.
Je n'espérais plus vous voir.
Mais nous ne nous sommes jamais vus.
Si, à la douane.
À la douane?
À Bâle, il y a 15 jours.
Ah oui, en effet, une valise pour une amie. Oui, des robes de Paris qu'on m'avait retenues. J'ai dû, pour les dégager, donner un peu d'argent et une signature.
Le destin?
Moi aussi, je vous avais remarqué.
Ah oui?
Vous portiez ce jour-là un costume à petits carreaux. Une écharpe de soie grise, une perle noire à votre cravate, et des boutons de manchette qui représentaient des têtes de chevaux en or. Et ce jour-là, des yeux noirs, comme aujourd'hui. Le destin.
Nous pouvons repartir, monsieur le baron.
Déjà?
On a fait le plus vite possible. Nous reverrons.
Certainement. Le destin pour nous, qu'est-ce qu'il vient? Laissons.
Ne trouve pas. Vous partez, je voulais vous dire. Je suis Donati. Fabrizio Donati.
Et moi, madame?
Mais non, c'est formidable d'avoir fait tous les gens. C'est ça qui est merveilleux. Autrement, on s'embête. Moi, j'aurais pas pu faire toujours la même chose. Quoi, j'avais un peu une étiquette dans le dos, point de vue élégance, là, c'était Madame II toujours. Meyerling, Madame II, les costumes, la taille, le corset.
Et Madame II, donc, ça n'est pas un bon souvenir pour vous?
Oh, ben c'est mon plus beau, ça, Madame II, je l'adore. Ça, c'est... J'ai l'impression d'avoir fait un film, même Madame II. Non, c'est vrai que c'est un film que j'aime beaucoup. C'est le seul que je puisse regarder comme si c'était pas moi. Que j'aime pas me voir, mais je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose dans ce film qui me plaît beaucoup, qui me correspond, je sais pas. C'est tellement joliment fait, et c'est tellement poétique. Et puis ses partenaires merveilleux, ce metteur en scène, le rêve. Enfin, c'était un beau moment.
Je dois vous prévenir, je suis paraphile d'une coquetterie infernale.
Je n'en crois rien.
Comme je ne m'en aperçois pas, je ne peux naturellement pas me corriger. Ce jeune Anglais prétend que je lui ai laissé tout espérer. C'est possible. Vous m'êtes très sympathique. Je serais désolée que vous vous preniez à mon jeu.
C'est très simple. Je n'ai qu'à ne pas espérer.
Très juste. À jeudi, madame. À jeudi.
À vendredi, madame.
Oui.
4 jours sans vous voir. On ne danse non plus à Paris.
C'est pour vous laisser le temps de faire de la politique étrangère.
Ah, bon.
Raconte-t-on à notre ambassade?
Oh, peu de choses.
Il paraît que on a des embêtements avec le Monténégro.
Qui vous a dit ça?
Henriette de Grandpierre.
Oh, et alors?
Elle est au mieux avec Monsieur de Sainte-Croix. Et Monsieur de Sainte-Croix a une histoire assez compromettante au Monténégro.
À votre place, je ne m'inquiéterai tout de même pas trop. Avez-vous de bonnes nouvelles de votre mari?
Excellente, merci.
Le 28 février 1953, Max Ophuls, au micro d'Henri Spade et de Robert Chazal.
Eh bien, je vais vous demander, Monsieur Ophuls, de nous parler alors du nouveau rôle que vous allez confier à Daniel Darieux.
Cette fois, le film se joue dans l'époque dans laquelle le livre est écrit, c'est 1880, à peu près.
1880, c'est ça.
Daniel Darieux va jouer une femme de la haute société, une femme très élégante, très mondaine. On l'appelle Madame de parce qu'on n'a pas voulu citer son nom. Elle était probablement une comtesse ou une marquise. Et c'était une femme frivole, très légère, qui, pendant le film, pendant l'histoire, paie cette frivolité à la fin, quand elle est enveloppée dans une histoire d'amour tragique. Elle paie ça avec sa mort.
Mais c'est pas bien drôle ce que vous nous racontez là. Je m'excuse, mais je ne suis pas du tout d'accord à ce qu'on fasse mourir Daniel Darieux à la fin de ses films. Messieurs les cinéastes, réservez ça à Jean Gabin, je n'y vois aucun inconvénient, mais pas Daniel Darieux. Ça, rien à faire.
Et Maya Ling, vous l'avez aimé?
Oui, c'est vrai. Ah. Allons. Mais c'est l'exception qui confirme la règle.
C'était long, une éternité.
Je me demandais pourquoi je vivais. Je ne voyais que votre visage.
Vous ne pourriez pas parler plus simplement.
Que voulez-vous que je vous dise?
Ma phrase préférée, celle que vous dites si bien. Je ne vous aime pas.
Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Oh, mes boucles d'oreilles. Marcel, vous étiez toujours près de moi. C'était mon seul réconfort. Je suis décidée à les porter toujours.
Comment ferez-vous?
Vous êtes un enfant. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas.
Comment était-il au Fulz?
Oh, merveilleux. C'était un magicien cinglé, adorable, sublime. Tellement intelligent, tellement enthousiaste, tellement... Il pleurait de rire tout le temps.
Et quand il venait me parler des boucles d'oreilles de Madame II, il me dit, alors, à ce moment, elle met ses boucliers. Il était drôle, il avait gardé un accent très fort, il était trop, trop mignon. J'avais beau lui dire, non, c'est les boucles d'oreilles, puis après je l'ai laissé, parce que je trouvais beaucoup plus drôle qu'on dise boucliers.
Il avait le charme extraordinaire, il ne vous demandait jamais les choses directement. Il vous faisait une grande conversation avant une scène très dramatique, par exemple. Mais quelque chose de pas gai, mais il vous mettait dans une ambiance étonnante en vous parlant tout à fait d'autre chose. Si bien qu'on se trouvait dans une atmosphère. Il ne vous demandait jamais, soyez un peu plus ceci, soyez un peu plus cela. Pas du tout, c'était jamais directement dit comme ça. C'était formidable, moi j'aimais beaucoup ça.
C'est-à-dire qu'en même temps, il laissait une grande part de liberté aussi, de création.
Bien sûr, parce qu'il adorait les comédiens, ça. Il aimait beaucoup, beaucoup les comédiens. Mais en même temps, il avait une psychologie extraordinaire, savoir ce qu'il fallait leur sortir. C'est ça, au fond, les metteurs en scène doivent sortir ce qu'on ne sait pas qu'on a. Bon, quand on a du métier, on sait qu'un peu, on a l'habitude, il y a des choses. Mais finalement, c'est pas intéressant. D'ailleurs, Rufus me disait une chose très drôle. Il m'a dit un jour, Daniel, vous avez tellement le sens du comique que vous devriez rejouer que des rôles dramatiques. C'est extraordinaire.
Mes boucles, n'est-ce pas qu'elles m'embellissent?
On dirait qu'elles ont été faites pour vous.
En effet.
Mais comment votre mari accepte-t-il de vous voir porter ce bijou?
Grâce à un petit mensonge, le premier de ma vie. Enfin, un des premiers. Vous me pardonnerez, je l'ai fait pour vous. Ce sera un autre mensonge. Il vous plaira car il est facile à croire.
Dites-le-moi.
Une très vieille cousine de ma mère m'a déjà donné la moitié de ses bijoux, qui sont très beaux. Personne ne s'étonnera qu'elle m'ait donné celui-ci. Et comme elle déteste mon mari, je suis sûre qu'ils n'auront jamais d'explication à ce sujet. Vous pardonnez.
Bonsoir, madame. Il m'agace.
Je déteste le monde. Je ne voudrais plus être regardée que par vous. Allons jeudi dans votre petite maison d'Auteuil.
3 jours encore. C'est long, 3 jours.
Excellence, le général vous prie de vous rendre au fumoir. Il s'excuse, il vous attend tout de suite.
Daniel Darieux au micro de Jean-Claude Brialy en 1973.
Il faisait répéter les acteurs, mais sans rien leur demander, d'abord, tu vois, pour... Il aimait beaucoup s'inspirer d'abord des acteurs, puis après il leur demandait des tas de choses, inutile de le dire. Et alors, on restait comme ça 2 heures, et après, on nous renvoyait dans nos loges, et puis vers 6h30, 7h du soir, on faisait les 12 numéros prévus en un seul. Tu vois?
Ah oui,
avec
oui.
Un grand travelling qui passait partout, dans qui s'amenait en gros plan, qui reculait et tout.
Ah oui,
c'était très difficile pour la technique, mais c'était comme ça qu'il tournait.
Ah oui, mais c'était beau d'ailleurs, parce qu'il y avait une émotion qui venait.
Oui, on tournait par très grands morceaux, et c'était assez agréable, je trouve.
Je me souviens d'une scène dans Madame 2. Très belle, où il y a... chaque fois que je parle de cette scène, chaque fois que j'écris un truc avec un auteur, quand on parle d'une scène d'amour, je dis, c'est pas nécessaire de dire « je vous aime » pour qu'on comprenne que les protagonistes s'aiment. Je me souviens,
oui, bien sûr.
Dans Madame 2, il y avait une scène avec Charles Boyer, qui était en train de s'habiller, et brusquement, on venait d'annoncer que De Sica était en bas, tu descendais l'escalier en courant, et puis tu lui disais qu'il ne fallait pas qu'il reste là, et puis tu glissais le long de la porte en disant...
Je ne vous aime pas.
J'ai essayé de vous éviter le chagrin de cette entrevue, et puisque vous insistez...
Oh, pauvre chérie, vous allez vous battre.
Quel est l'imbécile qui vous a raconté ça?
N'y est pas, Nounou a entendu M. de Bernac qui parlait de votre duel. Et vous n'allez pas vous battre pour moi, pour une folle comme moi, je n'en vaut pas la peine, je ne suis même plus jolie.
Plus que jamais.
Croyez... Vous voyez, je suis incorrigible. Trop de frivolité, trop l'habitude des petits mensonges. La femme que j'étais a fait le malheur de celle que je suis devenue. Mais je ne vous laisserai pas vous battre. Il n'avait pas le droit de vous provoquer, puisque nous ne nous voyons pas, il n'avait aucune raison.
On l'a trouvé.
Mais lesquelles, puisque vous ne m'aimez plus? Car vous ne m'aimez plus, n'est-ce pas? Tu vas prendre garde. C'est un véritable suicide.
Peut-être.
Je sais qu'Offus m'a fait beaucoup de bien, parce que moi, quand j'étais jeune, je jouais facilement, je parlais juste, j'étais charmant, j'étais mignon, j'avais la taille fine, j'étais jolie. Bon, c'était pas gentil, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. je trouve. C'est vrai. Il m'a appris à jouer plus loin que l'aspect extérieur.
Ouais, alors ces deux-là sont toujours les derniers.
Qui est-ce? C'est le baron Donati. Et elle?
C'est madame de...
Oui, baron ou pas baron, moi j'en ai assez.
Je m'en vais.
Messieurs, bonsoir.
Et comment était Vittorio De Sica?
Oh là là, le charme incarné! Mon Dieu! Moi, j'étais baigné dans le beurre dans ce film. De Sica, Boyer et Ophuls, vous vous rendez compte?
On essaie. Oh,
c'est fou, c'est pour ça que je planais, j'étais sur un nuage dans ce film. J'étais complètement, je ne savais pas lequel je préférais, j'étais complètement comblé. Et alors, c'est inouï parce que je me rappelle, on dansait, à un moment donné, la fameuse valse avec De Sica, un bal. Et ben, tu sais. Il s'en croit de l'oreille. Je suis essoufflé, Daniel. Je vais avoir 51 ans.
Vous ne demandez pas des nouvelles de mon mari?
Non.
Vous avez raison, il rentre demain.
Moi, j'avais... J'avais 36 ans quand j'ai tourné Madame 2. Et il se trouvait un vieillard. Ça me fait marrer maintenant. Puis... J'ai 51 ans, Daniel, mon Dieu, j'ai 51 ans. Là, lui, il avait parlé roulé, bien sûr. J'ai 51 ans, il était malheureux, ça, c'était un grand séducteur, hein. Très grand, et le Boyer aussi. Mais Boyer ne s'occupe pas de ça, pas de son âge comme ça.
Le film... qui se déroule dans toute cette atmosphère de bal. Il y a une scène célèbre où Vittorio De Sica et Daniel Darieux dansent extrêmement longuement et finissent, si l'on peut dire, leur tour de piste en ne restant plus que seuls avec quelques musiciens. C'est absolument l'enchantement. Mais enfin, l'enchantement se termine très très mal, puisqu'un duel oppose Boyer et De Sica, et que cette pauvre Madame de, qui, après toutes ces épreuves, avait le cœur fragile, finit par mourir, pour ainsi dire, foudroyée au pied d'un arbre. C'est un des moments, vous savez, dans le cinéma, il y a quand même des moments sublimes et qu'on n'oublie pas. Eh bien, celui-là en est un.
Mais d'ailleurs, Ophuls, qui est un grand portraitiste de la femme, enfin, dont on pourrait dire même que l'ensemble de cinéma présente une sorte de défense et d'illustration des malheurs de la femme, a trouvé, semble-t-il, en Daniel Darieux, l'une de ses interprètes les plus abouties. Enfin, celle
mais très certainement, très certainement. Et il faut quand même parler aussi du plaisir où, dans le volet central, la maison Tellier, elle joue Madame Rosa, dont s'éprend ce brave Jean Gabin, paysan normand, alors que toute la maison Tellier, la maison de ces dames faciles qu'on réunit dans un salon pour le bien-être des bourgeois de la ville, partent à la communion de la nièce, de la patronne de la maison en question, jouée par Madeleine Renaud. Et si on lit la nouvelle de Maupassant, on voit tout ce que Daniel Darieux, dans le rôle de Madame Rosa, a pu ajouter. Elle a transformé cette... Parce que les héroïnes de Maupassant, mon Dieu, touchent un peu à la vulgarité, il faut bien le dire. Là, elle a un jeu absolument étonnant, parce qu'elle circule là, en petite tenue, en petite culotte, etc., fumant des cigarettes, pendant que la caméra explore cette maison Tellier sans jamais entrer dedans et en se promenant le long des fenêtres, et on la voit là qui chante, qui danse avec une grâce extrême. Les films d'Ophuls, on peut reprendre pour eux ce que Sacha Guitry disait de Voltaire, c'était l'ironie et la grâce, et je crois que l'ironie et la grâce sont deux des très hautes qualités de Daniel Darieux.
Aussitôt qu'elles ne furent plus seules dans le compartiment, ces dames prirent une contenance grave pour donner bonne opinion d'elles.
Madame Rosa. Sa mère à la mode. C'est le vicomte qui me l'a appris. Comprends? Votre mari. Il va bien. Il vient pas mal, ma chère, merci. Il est en voyage. À Paris. Mais quel mari? Oh. Bah, voyons, cocotte. Mari? Vous ne le connaissez pas, ma chère. Il a des attentions extraordinaires. Il m'envoie tous les jours des robes et des bijoux. Et même des fleurs. Nous buvons du champagne à tous les repas. Il embrasse mes mains. Il me dit des choses merveilleuses.
Celle qu'on retient le mieux dans
la fameuse scène dans l'église où effectivement elle revoit son enfance, sa première communion. C'est une scène tout à fait extraordinaire. Et aussi dans un autre registre, dans La Ronde aussi, là où elle joue cette femme du monde.
La Ronde, c'est la femme du monde qui est séduite par le jeune homme, la femme du monde qui commet son premier adultère. On la voit dans deux sketchs parce qu'après elle se retrouve avec son mari.
Oui, absolument.
C'est bien ça, oui. Puisqu'il y a la fameuse panne sexuelle là, avec Gélin. Et puis après, ça remarche et on la retrouve avec... Oui, c'est vrai, ça passe. C'est le côté... On disait toujours qu'Offus était viennois. En fait, il était sarrois, c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais cette littérature, c'est Schindler, cette littérature de décadence, enfin, de fin de la monarchie austro-hongroise...
Fin de régime, fin de siècle.
Ça lui convenait parfaitement.
Fermez vite la porte, merci.
On vous a suivi.
Oh, j'espère que non, j'ai changé trois fois de fiacre. Oh, Alfred, quelle folie, mon cœur bat.
On vous asseoir.
Quelle heure est-il?
C'est sûrement le quart. Il n'est pas en retard.
C'est gentil chez vous.
Oui, n'est-ce pas?
Oui, c'est... C'est intime.
Oui.
C'est vraiment chez vous?
Oui, enfin, pour le moment.
Ah. Depuis quand?
Depuis quelque temps. Ah. Vous ne voulez pas vous asseoir?
Mais j'ai les jambes coupées. C'est l'émotion.
Enlevez votre collet, ça vous fera du bien.
Vous croyez?
Oui. Et puis, votre voilette.
Deux.
Une. Deux. Enlevez votre chapeau aussi, ça vous fera du bien.
Ah, vous croyez?
Oui. Parce que vous êtes belle. Je sais pas comment vous faites, vous êtes de plus en plus belle.
Vous êtes gentille. Vous m'aimez?
J'espère que vous n'en doutez pas.
Alors vous allez me le prouver. Vous allez me laisser partir.
Oui, Emma.
J'ai fait ce que vous m'aviez demandé, je suis venue.
Oui, Emma, soyez pas méchante.
Vous m'avez promis d'être raisonnable.
Mais je vous jure, je serai raisonnable.
Eh bien maintenant, au revoir.
Oui, Emma, ne me torturez pas.
Les 5 minutes sont passées.
Mais pas 5 minutes, 5 secondes à faire.
Quelle heure est-il?
Je sais pas.
6h05, mais je devrais être chez ma sœur.
Non, on peut attendre, enfin, vous la voyez chaque jour.
Alfred, pourquoi vous ai-je écouté?
Emma.
La Ronde, c'est vraiment le cercle amours. Enfin, c'est un film assez...
Ah oui, merveilleux.
Racinien, d'une certaine
manière. J'aurais bien aimé
manière.
Jouer ça quand j'étais jeune. Tous les rôles des femmes. C'est amusant, hein, comme idée. Comédienne va faire ça. C'est superbe. Maintenant, je peux plus, alors je peux en parler calmement. Donc... c'est vrai, c'est merveilleux. Une cinq femmes jouées par la même et avec cinq partenaires différents. Très drôle.
Oui. Vous avez regretté de n'avoir pas tourné Lola Montes ?
Bien sûr, mais lui aussi, surtout. Et il était dans un état Daniel. Il faisait tout. Mais je lui dis, mais enfin, Max, il ne faut pas vous mettre comme ça. C'est les distributeurs qui faisaient le show. Et Martine Carole était adorable dans ce film. Elle était merveilleuse. Elle n'a jamais été aussi bien, à mon avis. Mais justement, elle a eu au Fulse. Mais il était drôle quand même. Quand il est revenu après, ah ! Je lui dis, alors ça s'est bien passé avec Martine. Vous avez passé elle était adorable. Elle était genre... Oui, il me dit, Daniel, elle fait le beau. Elle me disait... Pour me dire, elle est bien, elle est gentille, elle est souple et tout, il me dit, elle fait bien le beau.
Raymond Chira.
Elle a dû être quand même comblée au cours de sa vie, Daniel Darieux. C'est rare d'avoir quand même une actrice qui a eu à sa disposition autant de rôles chatoyants.
Oui, puis autant de metteurs en scène qui ont quand même marqué l'histoire du cinéma.
Absolument, parce qu'on parle d'Autant Lara, mais enfin, Autant Lara l'a fait tourner aussi dans Le Bon Dieu sans confession. On lui donne chaque fois des rôles très divers. Dans Le Bon Dieu sans confession, elle est quand même une femme...
machiavélique.
Moyennement sympathique.
Tout à fait machiavélique.
Tout à fait machiavélique. Et puis... elle a tourné quand même un autre film avec lui, qui est Le Rouge et le Noir.
Qui n'est pas le moindre.
Ben oui, où elle
avec
fait
Gérard
Madame,
Philippe.
Elle fait Madame de Rênal avec Gérard Philippe. Et alors, elle joue ça, c'est la petite noblesse provinciale qui est tout à ce coup séduite par ce garçon, Gérard Philippe. Enfin, je ne vais pas raconter le roman de Stendhal. Et qui s'achève extrêmement mal aussi pour elle. Mais c'est justement cette aptitude à entrer chaque fois dans un rôle et en exprimer véritablement tout le suc. C'est ça le grand talent de Daniel Darieux.
Explique-moi. Je me crois pieuse. Je sais bien que je retombe dans mon crime. Mais dès que je te vois, tous mes remords disparaissent. Je suis plus qu'amour. Bien plus qu'amour. Je sens pour toi ce que je devrais sentir pour Dieu. Le respect. L'amour. L'obéissance. Va donner un coup de couteau au geôlier. Il serait mort avant que j'y pense. Et maintenant... Moi qui ne pense qu'à sauver ta vie. Moi qui donnerais ma vie mille fois pour la tienne. Tu me dis, laisse-moi mourir. Ne demande pas ma grâce. Et je ne la demanderai pas. Et je me dis, c'est bien. Il va mourir. C'est bien.
Si tu me promets de ne rien demander, je sais que tu ne demanderas rien. Même en cachette.
Non, rien.
C'est vrai que c'était extraordinaire aussi pour moi. D'avoir tourné Le Rouge et le Noir, Gérard Philippe, c'était... Oui, ça m'avait beaucoup impressionné aussi. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'était beau, c'était bouleversant. Et c'est vrai que j'étais très ébloui qu'on m'ait choisi.
Pour faire Madame de Rênal.
Ben oui. Quel personnage.
Et Gérard Philippe, comment était-il ?
Oh, adorable. Adorable, très lunatique. Un jour, il arrivait sur le plateau, il vous serrait dans ses bras. Le lendemain, il est arrivé, il était un petit peu déjà parti, je ne sais pas où. C'était un personnage très... très... pas tellement les sur-terre. C'est drôle. Il devait sentir peut-être des choses. Il n'était pas du tout terre-à-terre, il n'était pas sur-terre. On avait toujours l'impression qu'il était autre part. Mais adorable.
Et vous avez joué plusieurs fois avec lui, d'ailleurs, parce qu'il y a eu Le Rouge et le Noir, mais il y a eu aussi d'autres films.
Oui,
Pobouille, qui était un film très joli aussi.
Vous désirez me parler ?
Oui. Je suis au courant de votre altercation avec M. Vabre. Je sais qu'il a constitué témoin. Il ne faut pas que cette rencontre ait lieu.
Tout dépend de mon adversaire.
Mais je ne veux pas que vous vous battiez.
Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
Oh, mais malheureux, s'il vous tue, il est tellement maladroit.
Un duel, il faut en accepter les risques. D'ailleurs, partagez. Qui vous dit que M. Vabre n'y laissera pas sa peau ?
Oh, hélas, rien n'est moins sûr.
Je vous ai déjà quitté une fois et vous vous êtes fort bien accommodé de mon absence. Il y a 3 mois que je suis mort pour vous. Si je meurs pour de bon, quelle différence ? Je n'ai aucun scrupule à quitter ce monde, puisque je n'y serai pas regretté.
Monsieur Octave, il faut que vous sachiez la vérité. Je porte un peu la responsabilité de cette histoire. C'est moi... Oui, c'est moi qui ai éveillé les soupçons de M. Vabre. Oh, je ne lui ai rien dit de précis, j'ai été ignoble. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais votre comportement m'avait agacée.
Mon comportement ?
Eh oui, vous étiez devenu l'homme de confiance de M. Vabre. Je m'étais imaginé que tous vos efforts étaient dirigés contre moi. Votre refus de revenir dans ce magasin m'avait exaspérée.
Ah, c'était une question de boutique.
Je ne sais pas, tout cela était si confus.
Et vous craignez d'avoir des remords si je meurs par votre faute. Rassurez-vous, il n'y aura pas de concurrence. Et des remords, vous n'en aurez pas. Elle avait raison, celle qui disait que vous aviez un tiroir caisse dans le cœur. On croit qu'il bat, il compte ses sous. Vous m'avez dénoncé ? Très bien. Je paierai. Vous passerez ma mort au profit de ses pères.
Oh non ! Non, j'irai plutôt me jeter aux pieds de Monsieur Vabre.
Ce sera un spectacle amusant. Allons, adieu, madame.
Oh non. Non, ce n'était pas une question de boutique. Oh, pardonnez-moi, Octave.
C'est bien, je ne me battrai pas. Mais c'est le dernier sacrifice que je vous fais. Madame Mouret.
Julien Duvivier a fait jouer Daniel Darieux dans l'adaptation de Pobouille, d'après Émile Zola, où elle jouait avec Gérard Philippe et où elle faisait la patronne d'un magasin un peu coincée. Il faut dire, elle était distante, elle était réservée, elle était hautaine. Et peu à peu, sous l'influence de Gérard Philippe, qui était son commis, et qui était un arriviste aux dents longues, peu à peu, elle se transforme, elle s'épanouit, et tout ça finit par une union entre ces deux êtres si dissemblables. Et il faut voir alors encore là l'art de Daniel Darieux de nuancer un personnage. Elle n'avait pas, c'était pas, si vous voulez, le rôle principal. Autour de Gérard Philippe, il y avait toute une pléiade d'acteurs qui avaient des rôles extrêmement typés. Elle y mettait un charme retenu, un charme un peu étouffé, mais qui n'en transparaissait pas moins.
Alors c'est sans doute moi qui ai livré le réseau. Moi qui ai eu l'idée de vous convoquer. Moi qui vous ai réunis. Mais enfin, c'est absurde. Pourquoi ? Mais pourquoi aurais-je pris cette initiative ? Une affaire vieille de 15 ans et dont personne ne se souvenait plus. Par inconscience, par défi.
Oui, évidemment.
L'assassin qui mène l'enquête, ça ne serait jamais vu.
Excuse-moi, mais ne viens-tu pas de faire une petite erreur ?
Une erreur ?
Est-ce bien toi qui as eu l'idée de nous réunir ce soir ?
Tu en convenais toi-même tout à l'heure ?
Oui, enfin, je voulais dire... Mais, en fait, cette idée n'est-elle pas mienne ? Voyons. Quand cet acheteur allemand, ce Wilfried Müller, t'a reconnu, j'étais là.
Oui ? Tu es survenu juste à ce moment ?
Je t'ai vu si pâle, tout à coup, j'ai cru à un malaise. Tu as demandé alors à cet homme de répéter son accusation et nous sommes restés seuls. Je t'ai dit, nous devons, à la mémoire de Castille, de faire la lumière sur cette trahison. Qu'as-tu répondu ?
Je ne croyais pas à la possibilité de retrouver les membres de notre réseau. Je pensais qu'il était trop tard.
Ma secrétaire n'a pas eu trop de mal à rassembler les adresses de chacun de nous.
Alors n'ai-je pas insisté pour cette réunion ?
Oui. Après ?
C'est les membres d'un réseau de résistance qui se retrouvent après la guerre.
Jean-Pierre Ferrière.
Camarie Octobre, qui était leur égérie, enfin, qui faisait partie de ce réseau, a appris que ce réseau avait été dénoncé par l'un de ses membres. Donc elle réunit tous les survivants pour démasquer le traître. Donc l'histoire se passe en une nuit. C'est très Agatha Christie.
En huis clos.
En huis clos, dans un seul décor. Ça a été filmé un peu comme au théâtre, avec une distribution très brillante, puisqu'il y avait Paul Meurice, Reggiani, Bertrand Ménard-Blier, Lino Ventura. Et à la fin de du film, évidemment, on a démasqué le traître, mais personne n'ose le supprimer, parce que, bon, la guerre est finie. Et c'est Marie Octobre qui tue le traître.
Oui, dans une scène d'ailleurs particulièrement
tendue,
pathétique.
Oui, parce qu'il faut dire que ce traître avait provoqué la mort du chef de réseau qui était son amant pendant la guerre.
Donc en fait, c'est une forme de vengeance aussi qui se déroule sous nos yeux. Et le film...
C'était un très gros succès commercial.
Et Jacques Demy, alors Jacques Demy,
c'était un amour. Ah, moi, je m'entendais très bien avec lui aussi. C'était un petit garçon. Il était tellement gentil, tellement... attendrissant, quand il était sur un plateau et qu'il nous regardait tourner, on avait l'impression d'un môme qu'il n'a jamais vu. De gens de cinéma. C'est vrai, il était attendrissant parce qu'il était très vite attendri par les gens qui faisaient tourner. Et en même temps, il savait très bien ce qu'il voulait, mais avec un air d'enfant ébloui. C'est vraiment, il était adorable.
Comme c'est triste, tous ces hommes qui partent.
Tous ? Pourquoi tous ?
Oh, je disais ça comme ça. Je pensais à une histoire qui m'est arrivée. Évidemment, ça ne vous regarde pas. Vous allez bien finir par casser cette chaise.
C'est une histoire d'amour, je suppose.
Que voulez-vous que ce soit ? C'était une passion secrète. Je n'en ai parlé à personne. Personne n'en a jamais rien su. Pas même mes filles.
Vos filles ? Depuis le temps que vous m'en parlez, j'aimerais bien les connaître.
Oh, mais taisez-vous donc. Et alors, cette passion, si je comprends bien, ça a mal tourné.
Mon fiancé avait un nom fort détestable, et ce nom m'agaçait plus qu'il n'est supportable. Alors je l'ai quitté sans un mot, sans adieu. Il y aura 10 ans que j'ai brisé ce nœud. Je lui avais appris dans le plus doux moment que j'attendais de lui l'heureux événement qui anoblit la femme et enorgueillit l'homme, car Boubou s'annonçait pauvre petit bonhomme. C'était un beau jeune homme et j'étais demoiselle, bien que j'aie eu déjà par hasard mes jumelles qu'il ne connaissait pas. Elle vivait en pension et ne rentrait jamais le soir à la maison. Quelques années plus tard, par un ami commun, je lui ai fait savoir qu'un riche Mexicain me proposait l'amour au bord du Pacifique. Ce n'était qu'un mensonge amer et pathétique. À présent, je suis seule et je n'ai plus 20 ans. J'ai voulu voir la ville où mon amour d'antan avait connu le jour. Je m'y suis installée avec mes souvenirs épars et désolés.
Et vous ne savez pas ce qu'il est devenu ?
Non. Il doit être à Paris.
Et vous devriez aller le retrouver ou faire une enquête.
Ouais. Et comment s'appelait-il, ce monstre ?
Dame. Simon Dame. Devant la loi, je devenais Madame Dame. C'était ridicule.
C'était un salaud.
Mais non, papa, calme-toi.
Un salaud !
C'était peut-être un salaud, mais il avait un nom aimable.
Madame Dame. Mais je trouvais ça rigolo.
Oui, en somme, j'ai eu tort.
Non, j'ai pas dit ça.
Demoiselle de Rochefort, oui, elle joue la mère de Catherine Deneuve et de Françoise d'Orléac.
Paul Vecchiali.
Et c'est une femme un peu farfelue qui vit dans le passé, qui a eu une histoire d'amour avec Michel Piccoli, donc. Et puis elle le retrouve à la fin. Et puis elle a ses deux filles qui rêvent, provinciales, qui rêvent d'aller à Paris faire de la danse ou du chant ou de la comédie. Et c'est toute la province comme ça qui est traitée avec un regard à la fois tendre et un peu critique. Et elle est parfaite dans ce genre de rôle, parce qu'elle a ça dans la vie. Elle a à la fois énormément de tendresse, elle a toujours une petite distance critique par rapport à ce qu'elle fait et ce qu'elle joue.
Elle fait la mère des jumelles dans Les Demoiselles de Rochefort, où elle, elle fait très jeune femme encore. Bon. Et puis, il y a le film qu'il a tourné des années après. Là,
Une chambre en ville.
Une chambre en ville.
À Paris, dans les années 80.
Où la logeuse, et quand elle chante, elle a la voix complètement grave, mais enfin, elle chante toujours d'une façon étonnante. Et d'un seul coup, on voit cette femme qui, là, pour le coup, vieillissante, qui est... C'est le même cinéaste, bon, et c'est comme si, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est comme si, bien que les personnages n'aient pas de rapport tous les deux, puisqu'il y en a un qui se passe à Rochefort, l'autre à Nantes, c'est comme si c'était la même une dizaine d'années de plus. Quand Darieux est quelque part, avec elle, il se passe quelque chose, parce qu'elle vous campe. Elle n'a pas besoin de gesticuler, de faire des tas de choses, même une façon de prendre un texte. Bon, c'est pas une diction, c'est pas Feuillère. Feuillère avait espèce de majesté dans la diction.
La diction en comédie
française.
Cette fameuse
voix de violoncelle, bon, etc. Et bon, Daniel Darieux, c'est pas ça. Ça reste toujours naturel. Bon, quand elle chante dans une chambre en ville, elle a une scène avec sa fille, là, qui est Dominique Sanda. Elle fredonne, puisqu'on chante tout le temps dans le film de Demi, même si c'est. Tu me prends vraiment pour une conne, bon, entendre Darieux dire ça, bon, eh ben, ça y est, ça passe.
Qu'il bon, il ne faut pas m'en vouloir. Cette agitation m'a rendue nerveuse. Ce tumulte, cette haine, cette tension de part et d'autre, c'est plus fort que moi, il faut me comprendre. Voyez-vous, nous ne sommes pas du même monde. Cela ne veut pas dire que nous ne puissions pas être amis.
Amis, nous, ça m'étonnerait.
Vous refusez mon amitié.
J'en ai rien à foutre.
Depuis la mort de mon fils, je me sens si seule. Il y aura un an demain qu'il s'est tué. 2 ans jour pour jour après la mort de mon mari. Excusez-moi.
Vous ne pourriez pas me prêter votre brosse à chaussures.
Mais si, bien sûr.
Paul Vecchiali, vous avez tourné une seule fois avec Daniel Darieux.
Une seule fois pour le cinéma et une seule fois pour la télévision.
Et dans ce film donc unique qui s'appelle En haut des marches, qui remonte à 1983, vous lui avez confié une lourde responsabilité puisque elle incarne le rôle de votre mère. C'est un film plus ou moins autobiographique.
Biographique. Oui, c'est-à-dire que maman, que j'aimais beaucoup et elle le savait, un jour m'a dit « Je crois que je t'ai déçu ». Et cette phrase m'avait paru tellement absurde. Que je ne savais pas comment lui répondre, et j'ai dit je vais faire un film. Voilà. Et puis ce qui lance comme ça la gestation d'un film, quelquefois se dévie. Et là c'est devenu une espèce d'analyse du personnage à travers Daniel Darieux. Pour moi, il n'y avait pas d'autre actrice qui pouvait tourner ça.
Pour quelle raison ? Elle serait votre mère cinématographique ?
Non, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que si j'ai fait du cinéma, c'est à cause d'elle ou grâce à elle. C'est-à-dire que j'ai vu à 6 ans Meyerling. En sortant de Meyerling, j'ai dit je ferai du cinéma. Maman m'a demandé pourquoi. J'ai dit pour tourner avec Daniel Darieux. Donc il y avait un truc comme ça. Puis par ailleurs, je voyais personne qui puisse avoir cette espèce de fluidité, de... C'était difficile, le texte, quand même. C'est un texte assez politique, par instant. Et je voyais personne qui ait l'ambiguïté nécessaire, qui ait la finesse nécessaire pour ça. Et puis c'est une chanteuse admirable. Et je voulais tes chansons, puisque maman chantait beaucoup. Quand on tournait En haut des marches à Toulon, on était en février, quand même. Il faisait pas mal froid. Et elle se levait à 4h30, 5h du matin, parce qu'il y avait 2 heures de coiffure, maquillage. Et elle voulait qu'on le fasse bien, ça lui tenait beaucoup. Et vous savez qu'elle apprend jamais son texte, elle le lit. Et pendant qu'on la maquille, elle lit le texte. Ça suffit.
Et elle mémorise immédiatement.
C'est absolument incroyable. Vous avez vu dans Haut des marches les bateaux, enfin il y a quand même une quinzaine de bateaux, elle les a dit dans l'ordre. Et elle ne l'avait pas appris la veille, elle l'a lu le matin.
Les bateaux du port de Toulon, ceux qui sont
s'abordés,
effectivement.
Alors, il fallait partir, tous, prendre le maquis, tous. Vous me direz que de toute façon, on était mouillés. Alors voilà, vous avez raison. En plantant des patates, déjà, on se mouillait. On en tirait 10 de la terre, les Allemands en prenaient 3 obligatoirement. Alors bien sûr, on était collabo pour ces 3-là. Reste 7. Avec ça, on survivait quand même. On résistait. Et c'était une sacrée résistance de survivre. De faire survivre les autres, les enfants. Par les patates, par l'enseignement, par la tendresse. Au milieu de toute cette haine qu'on nous prêchait d'un côté comme de l'autre. Mais non, il aurait fallu qu'on braille, qu'on manifeste, qu'on hurle, pour qu'ils tirent dans le tas. Un joli massacre, pour faciliter la carrière de quelques politiciens.
Il fallait avoir le courage de partir, ma reine, de prendre parti.
Alors j'ai été lâche. Je me sens plus forte chez moi. Je ne suis pas faite pour l'aventure. Charles, lui, serait parti, pas tout de suite. En 43, quand il ne comprenait plus.
Vous l'en avez empêché, c'est ça?
Oui. Je lui ai dit, et ta famille? Je ne pensais pas à nous, je voulais dire ses frères, ses sœurs, et de mon côté aussi. Je lui ai dit, tu n'as pas le droit de les abandonner. Depuis juin 41, ils étaient plus ou moins dans la clandestinité, nous le savions. Ils étaient presque tous au parti. Charles était bien placé pour leur éviter les mauvaises surprises.
Excusez-moi, mon capitaine, Sa Majesté.
Je t'ai demandé de ne pas me déranger.
Mais mon capitaine, c'est votre sœur.
J'ai un projet qui devrait se tourner ici, qui s'appelle La Marquise et Bicêtre. Parce qu'après un redémarche, elle m'a dit « Tu devrais m'écrire un rôle de clocharde ». Et j'ai évidemment éclaté de rire. Et puis ça a fait son chemin. Je me suis dit « Ce qu'il faut écrire, c'est l'histoire d'une femme qui a envie d'être clocharde. » Et une marquise, naturellement, puisque Madame II. Et puis bon, il n'a pas pu se faire.
Ça, le cinéma, messieurs les auteurs, il n'y a pas grand-chose. Hein. Moi, on voit des scénarios, il y a un joli rôle d'une grand-mère, toujours charmante, toujours très mignonne, c'est la plus gentille de tout le monde. Une idiote, quoi. Une idiote avec 3 scènes dans le film. Alors, bon, je veux bien, mais je l'ai fait une fois pour payer le fisc, mais c'est pas tellement intéressant. Je tiens pas à faire ça tout le temps. Parce que, mais on peut pas demander non plus en France, où on aime tellement les femmes... Que l'héroïne soit une vieille dame. C'est très difficile. Hein. C'est très difficile. En Amérique, ils ont plus le sens de ça. Et les Anglais aussi. Mais en France, je ne sais pas, on a peur de... C'est toujours stupide. Oh, il y a une vieille tante, on va demander à Daniel. Oh, il y a une grand-mère délicieuse. Oh, c'est toujours délicieuse. Je peux remarquer que... On ne me propose jamais de vieille grand-mère méchante. C'est déjà attends, sympathique.
Une grand-mère un peu peau de vache, ça pourrait être assez drôle aussi.
Oui. Pas jusqu'à Tati Daniel, mais... Oui, c'est... Mais...
Ciné-club, Daniel Darieux. Avec le cinéaste Paul Vecchiali, Raymond Chira, de l'Institut Louis-Lumière, Jean-Pierre Ferrière, écrivain, auteur d'un livre sur Daniel Darieux, Jacques Siclier, critique au journal Le Monde, et Daniel Darieux. Archivina, Annie Lozana, mixage Antoine Lehambre et Rémi Fessard, une émission de Pascal Lismonde, réalisée par Josette Collin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 décembre 1998.
Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.